Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, Pascal Sim pour ce magazine d'Escale. Cette semaine, Escale s'intéresse au Sahel. Vaste région à cheval sur plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et centrale, le Sahel est confronté depuis plusieurs années à des problèmes de sécurité et de développement. La région est le centre d'attention du Conseil de sécurité des Nations Unies. Sahel, les défis de la paix et du développement, c'est notre magazine Escale de la semaine. Le Conseil de sécurité a effectué fin mars une mission de 3 jours au Sahel. Sous la présidence de la France, les 15 membres du Conseil se sont rendus au Mali et au Burkina Faso. François Delattre est ambassadeur de France à l'ONU. Il explique pourquoi le Conseil se rend au Mali, où est présente la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali.
L'étape de Bamako est absolument fondamentale. C'est la 4e fois depuis 2013 que le Conseil de sécurité se rend ici au Mali. Et notre volonté durant cette mission importante, d'abord c'est d'exprimer notre soutien à M. Anadif et à l'ensemble de ses équipes qui font un travail extraordinaire. Et c'est ce faisant de peser de tout notre poids à ses côtés, en son appui, pour pouvoir accélérer la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation au Mali.
Dans un format inédit, la France a jumelé sa présidence du Conseil de sécurité à celle de l'Allemagne, qui suit en avril. Les deux pays sont co-organisateurs de la mission du Conseil au Sahel. Élu membre non permanent du Conseil pour les années 2019 et 2020, Berlin accorde une attention particulière au Sahel, notamment au Mali, comme l'explique Christophe Özgen, ambassadeur d'Allemagne à l'ONU.
Le Mali, c'est un pays très très important. L'opération MINUSMA, c'est une des plus grandes des Nations Unies. Et pour l'Allemagne, le pays très important. L'Allemagne était le premier pays à reconnaître le Mali après son indépendance. L'Allemagne a sa plus grande participation à une mission des Nations Unies ici, à Mali. Et ça souligne notre soutien pour le Mali.
Membre non permanent du Conseil de sécurité depuis plus d'un an, la Côte d'Ivoire est le troisième co-organisateur de cette mission au Sahel. Le pays d'Afrique de l'Ouest a bénéficié de la présence d'une mission de maintien de la paix de l'ONU pendant 13 ans et il connaît les défis de la sécurité et de la sortie de crise. Kakou Wadjaléon Adom est ambassadeur de Côte d'Ivoire à l'ONU. Il explique l'importance pour son pays de co-organiser cette visite du Conseil au Mali.
Je suis heureux de les accompagner parce que je suis d'ici. Je suis de la Côte d'Ivoire, donc je suis du Mali. Le Mali et la Côte d'Ivoire, comme vous savez, c'est un même pays sur des territoires différents. Donc c'est avec plaisir que j'ai accepté d'être co-organisateur de cette visite. Dans quelques mois, nous allons procéder au renouvellement du mandat de la MINUSMA. Pour être utile et pour être persuasif, pour être convaincant, il était bon que nous venions nous-mêmes toucher du doigt les réalités et voir dans quelle mesure et dans quelle direction nous pouvons orienter le plaidoyer que nous allons faire justement pour obtenir que tout se passe comme nous le souhaitons, les Maliens, nous-mêmes, la sous-région et puis nos amis au-delà de la sous-région.
La MINUSMA a été créée par le Conseil de sécurité en 2013. La mission fut mise en place dans un contexte de crise profonde au Mali, marquée par une rébellion dans le nord du pays, un coup d'État et une offensive de mouvements armés et terroristes. Le mandat de la MINUSMA expire fin juin 2019. Au sein du Conseil de sécurité, les positions divergent sur les modalités du renouvellement du mandat de la mission. Le Tchadien Mahamat Saleh Anadif est représentant spécial de l'ONU pour le Mali. À la tête de la MINUSMA depuis 2015, il explique pourquoi la mission onusienne doit être maintenue.
La MINUSMA est indispensable pour la paix au Mali. Aujourd'hui, près de 2/3 du territoire malien ne connaît pas une présence de l'État malien. Il n'y a pas de force de défense et sécurité. Il n'y a pas d'administration, il n'y a que la MINUSMA qui y est présente. Par cette présence, la MINUSMA fait en sorte que le Mali reste uni. Si aujourd'hui la MINUSMA quitte le Mali, de facto, le Mali est divisé en deux. Ça veut dire que les populations qui sont au niveau du nord, qui aujourd'hui se sentent sécurisées par la présence de la MINUSMA, vont tous fuir aller vers le nord, ce qui va donner libre champ aux terroristes de venir occuper et de venir faire ce qui est intolérable, ce qui est inacceptable. Les gens disent que la MINUSMA coûte cher, mais je leur pose une simple question. Est-ce que les dégâts qui seront commis après son départ pourront être payés par de l'argent? Je comprends la communauté internationale. Il y a eu des retards dans la mise en œuvre de l'accord. Il y a eu des progrès qui ne sont pas à la hauteur des attentes. Mais la MINUSMA demeure toujours une jeune mission qui n'a été déployée que fin 2013. Le chemin qui a été parcouru est appréciable. Nous commençons déjà à réfléchir sur une sortie éventuelle, mais elle se prépare et nous sommes en train de la préparer. Mais ne pas l'appuyer maintenant serait quelque chose, un geste que la communauté internationale risque un jour de le regretter. Et je conseille vivement qu'on continue encore de soutenir la MINUSMA pour qu'elle appuie le processus de paix.
La MINUSMA, une mission indispensable et qui a payé un lourd tribut humain. 195 membres du personnel de l'opération onusienne ont été tués au Mali. Au nom du Conseil de sécurité, l'ambassadeur français François Delattre a rendu hommage au casque bleu mort pour la paix au Mali lors d'une cérémonie au quartier général de la MINUSMA.
Dans le cadre de leur mission au Sahel, les membres du Conseil de sécurité, que j'ai l'honneur de représenter et de présider aujourd'hui, ont souhaité rendre hommage auprès de 200 casques bleus de la MINUSMA qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur mandat depuis le déploiement de la mission au Mali en 2013. 16 sont morts depuis le début de cette année. Nous nous inclinons respectueusement aujourd'hui devant leur mémoire avec une profonde reconnaissance. Leur sacrifice ultime sous la bannière bleue des Nations Unies nous engage tous.
La MINUSMA est l'une des missions de l'ONU les plus meurtrières. Mahamat Saleh Anadif explique pourquoi et comment est-ce que l'ONU fait en sorte de mieux protéger et équiper ses casques bleus.
L'explication est simple. D'abord, c'est une mission de maintien de la paix. Mais contrairement aux autres missions, elle est déployée dans un environnement terroriste, dans un environnement où pullulent des gens qui sont sans loi, sans foi. Elle est déployée dans un territoire qui fait près de 1 million de kilomètres carrés, qui est désertique, où il n'y a pas de route. Et partout, il y a des mines et dans un explosif improvisé qui sont disséminés par les terroristes. Les axes sont difficilement praticables. C'est ça qui a fait qu'à la différence des autres, elle a connu un bilan assez meurtrier. Mais maintenant, depuis un certain temps, des mesures extrêmement importantes ont été prises. Je me permets de féliciter nos pays contributeurs de troupes et de police qui ont commencé à équiper leurs contingents avec plus d'engins blindés, avec plus d'engins de lutte anti-mines. Ils ont amélioré les équipements même individuels de leurs combattants, à savoir les casques, à savoir les gilets anti-balles, parce qu'on est dans une région où tu ne peux même pas faire 100 km sans véhicule blindé, sans véhicule anti-mine, parce que partout c'est disséminé et dans un désert que tu ne peux même pas voir.
Mikado FM, la radio de la paix au Mali.
À la une de notre édition ce soir à 17h, c'est ce massacre intervenu le week-end dernier dans la région de Mopti, précisément à Ogossagou, dans le cercle de Bankas, où, comme vous le savez, plus de 136...
Au dernier jour de la visite du Conseil de sécurité au Mali, une attaque contre un village Peul dans la région de Mopti a fait 160 morts. Une attaque qui souligne la fragilité du pays et qu'a condamné le Conseil de sécurité par la voix de son président, l'ambassadeur François Delattre.
Nous condamnons naturellement, dans les termes les plus fermes, cette attaque inqualifiable. Et les amis du Mali, tous les amis du Mali, et là je m'exprime à la fois au nom de la France et au nom du Conseil de sécurité, pleurent avec l'ensemble des Maliens, les victimes de ce drame indicible.
Après le Mali, le Conseil de sécurité s'est rendu au Burkina Faso voisin. Le Conseil a tenu à se rendre à Ouagadougou pour marquer sa solidarité avec ce pays du Sahel, également confronté aux attaques terroristes et aux violences intercommunautaires. S'il soutient le Burkina Faso dans sa lutte contre le terrorisme, le Conseil de sécurité a toutefois souligné que les questions de développement ne doivent pas être reléguées au second plan, comme l'explique Christoph Özgen, l'ambassadeur d'Allemagne à l'ONU et co-organisateur de la mission du Conseil au Sahel.
On a encouragé le gouvernement de poursuivre le chemin des réformes démocratiques dans le pays qui ont commencé il y a 3 ans et on a encouragé de continuer la réforme de la Constitution, bien préparer des élections. On les a encouragés de mise en œuvre des lois qui sont déjà adoptées en ce qui concerne le combat de la corruption. On a fait le point que c'est absolument impératif d'avoir une zéro tolérance en ce qui concerne la corruption. On a aussi dit comment était important de s'engager pour calmer les tensions entre les communautés d'ethnies différentes. Un point sur les droits de l'homme, on a mentionné à plusieurs reprises qu'il y a des rapports accablantes des exécutions sommaires des civils par les forces de sécurité. On a demandé des enquêtes impartiales par la justice pour que les coupables soient punis. Le message, c'était que la lutte contre le terrorisme doit être menée en respectant les droits de l'homme.
L'absence de développement durable au Sahel alimente les tensions et les migrations vers le nord de l'Afrique et l'Europe. Mais le Sahel ne peut être résumé à une zone d'instabilité. Il est également une terre d'opportunités pour sa population et ses jeunes, qui peuvent tirer parti des atouts de la région, notamment de l'énergie solaire. C'est ce qu'explique le Mauritanien Ibrahim Tchao, qui était jusqu'à très récemment l'envoyé spécial de l'ONU pour le Sahel.
C'est une activité commerciale dans beaucoup de cas, l'énergie. Ça veut dire qu'il y a des panneaux solaires à commercialiser, ça veut dire qu'il y a des installations à faire, donc il faut créer des petites entreprises également pour les installations et pour les entretiens, mais ça veut dire surtout que l'énergie qui est générée par ces entreprises peut créer davantage d'emplois avec des petites et moyennes entreprises. On part d'un cercle vicieux vers un cercle vertueux. Donc c'est une situation complètement différente par rapport à ce qu'on avait connu de par le passé, si bien que nous considérons que l'énergie, comme disent les Anglais, c'est un perturbateur, c'est un disrupteur. Mais c'est vraiment dans le sens positif où l'injection d'énergie dans l'économie crée de nouveaux emplois, permet aux jeunes de transformer leurs produits localement, permet aux femmes de Burkina Faso qui récoltent le beurre de karité de le valoriser plutôt que de l'exporter en matière brute, pour que ça revienne par la suite, après avoir été transformé par des firmes pharmaceutiques à l'extérieur, pour que ça soit racheté par la même femme. Donc on est dans une situation totalement différente où on peut garder les jeunes et les Sahéliens sur place, chez eux, à créer de l'emploi, à créer de la valeur ajoutée. Et les partenaires commerciaux du Sahel vont toujours bénéficier de très bons produits de bonne qualité, mais après transformation locale. Donc c'est une très bonne nouvelle à la fois pour les Sahéliens et pour leurs partenaires, en particulier les partenaires européens, occidentaux et du Moyen-Orient, puisque c'est les trois grandes destinations de migration internationale en dehors de l'Afrique.
Mais sans une mise en œuvre complète de l'accord de paix au Mali, la stabilité du Sahel ne sera pas garantie. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité le 29 mars, le Premier ministre malien Soumaïlou Boubey Maïga a tenu à souligner les avancées dans la mise en œuvre de cet accord.
Je voudrais tout d'abord assurer les membres du Conseil que le président de la République du Mali, le gouvernement, la coordination des mouvements de l'Azawad, la plateforme des mouvements du 14 juin 2014 et tous les groupes associés à l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, restent totalement engagés pour la mise en œuvre diligente et inclusive de ces dispositions. L'établissement des ministères en charge de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation a permis de consolider la coopération entre le gouvernement et les mouvements signataires. Il a également favorisé l'inclusion de tous les autres groupes ayant accepté l'accord. Tous se reconnaissent aujourd'hui en tant que partie malienne. La mention faite de cette cohésion dans le rapport sous examen est un motif de satisfaction pour ma délégation.
Les progrès dans la mise en œuvre de l'accord de paix au Mali ont été reconnus par le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, qui présidait le Conseil de sécurité ce 29 mars. Le chef de la diplomatie française a toutefois indiqué que ces progrès doivent être poursuivis et s'inscrire dans la durée, afin d'apporter des résultats concrets.
Je félicite les autorités maliennes, le président Keïta et le Premier ministre Maïga, dont la présence parmi nous témoigne de l'importance qu'ils attachent à l'accord et dont je salue l'action. Salue aussi l'ensemble des parties au processus de paix qui ont su trouver les ressources et la détermination nécessaires pour faire en sorte que ce sursaut ait eu lieu. Mais aujourd'hui, il faut le confirmer et il faut l'inscrire dans la durée. Nous attendons de toutes les parties qu'elles poursuivent leurs efforts. Le processus de DDR doit être mené à son terme. La constitution et le redéploiement des unités reconstituées doivent faire l'objet d'un calendrier. La décentralisation doit se poursuivre à l'issue de consultations inclusives. Et sur le terrain, le développement doit devenir une réalité au service des populations. Et s'agissant du développement, je souhaite d'ailleurs rappeler la détermination de la France et de l'Allemagne à agir dans la région aux côtés de nos partenaires de l'Alliance Sahel. L'heure de l'inertie et du statu quo est maintenant derrière nous. L'ensemble des parties doit remplir leurs obligations. Et s'il le faut, il faudra envisager de nouvelles sanctions à l'encontre de ceux qui pourraient entraver la mise en œuvre de l'accord.
Fin de ce magazine Escale, consacré à la situation au Sahel. Merci de votre fidélité et à très bientôt.